De la cour, on gonflait un ventre de mouton avec un gros soufflet, on tapait sur le ventre gonflé avec une tringle de fer. « Tiens la porte !» dit l'homme à la clef. Un autre homme sortait à ce moment-là. Il ne portait rien qu'un petit couteau, tout petit, tout aigu comme une aiguille. Il luisait au bout de son gros poing ganté de sang caillé. « Combien ?» Il dit, en mettant son large dos contre le mur pour laisser passer. « 60 kilos, dit l'homme au seau, sans ça il montrait les déchets dans le sang. Par la porte ouverte on voyait le jour de la cour, et juste, dans ce jour, un homme qui fendait une tête de bœuf sur un billot, à grands coups de hachoir. Il s'arrêtait de temps en temps pour essuyer sa moustache pleine de morceaux de cervelle, puis il secouait ses doigts. Il était là dans un envol de poules et de canards qui se battaient sur des éclaboussures de viande. « Regotaz, Regotaz !» appelait doucement Olivier. Il savait que celui-là, couché à plat ventre sur la terre, ne pouvait plus l'entendre. Il appelait à cause de ses larges épaules étalées, de ce torse solide, de ses grosses jambes aux pieds retournés. Il essaya de pousser l'homme sur le dos pour voir sa figure, il pesait trop, il était en même temps lourd et mou. Olivier s'allongea contre le mort, il l'empoigna aux cheveux, il essaya de relever ce visage. Il n'y avait plus de visage. Plus de bouche, plus de nez, plus de joues, plus de regard, de la chair broyée et des hérissements de petits os blancs. Il restait juste un peu de front et c'était en train de se vider dans la terre. Regotaz, la main du mort serrait une motte de terre avec un petit brin d'herbe. Joseph courait dans le petit sentier à contre-pente. Il soutenait son bras droit. De sa main gauche, large ouverte, il essayait de boucher ce trou du coude, ce fouillis d'os et de chair d'où le sang giclait en fontaine à travers ses doigts. Il voulait boucher ce trou. Il courait deux ou trois pas, puis il marchait deux ou trois pas en soufflant, puis il recommençait à courir. Il n'arrivait pas à boucher ce trou. Il serrait fort avec sa main gauche, mais toujours le sang traversait, ça le vidait. Il lui semblait que l'air entrait dans lui par ce trou, qu'il n'était plus entier et bien fermé au milieu de l'air mauvais, mais que déjà tout cet extérieur de terre bouleversée, de feu, de poudre et de sang, tout ça commençait à entrer dans lui, et qu'au bout d'un peu, si ça durait, il allait se mélanger à tout ça, lui Joseph, lui sa chair, se fondre dans tout ça comme du sucre dans l'eau. Le cadavre noir, qui avait planté ses dents dans l'écorce du saule, était toujours là, accroupi au bord du canal. Le ciel charriait là-haut tout le torrent de la préparation d'attaque. De ce côté-ci il y avait au ras de terre un peu de calme, un petit jour verdâtre qui sentait la poudre et l'os brûlé. « le canal !» appelait Joseph. Il était là le canal, aplati dans sa terre, immobile, tout luisant de pourri. Et le peuplier, peuplier !» appelait Joseph. Il vit le peuplier juste un chicot d'arbre tout en esquille et cloué dessus la planche à la croix rouge. Il chercha la porte en tapant du casque dans les sacs à terre. « Ici, » dit une voix, on le tira par le bout de la capote. Le major se retourna. « Tenez-le, celui-là, » il dit. Il était sans tunique et nu-tête et il avait relevé ses manches de chemise jusqu'au-dessus du coude. Il se pencha, une scie à la main sur un homme tout bandé en arrière et qui ronronnait, la bouche ouverte, un grand ronron de douleur, de fatigue et de calme. « Reste là, » dit l'infirmier à Joseph, « attends. » « Mon bras, » dit Joseph, « oui, attends. » Le major appela, « Fabre, voilà, » il mit sa main pleine de sang sur l'épaule du caporal. Celui-là, au fond, il regarda sa montre de poignet et souffla dans ses moustaches. On emportait l'homme qui ronronnait toujours à pleine gorge. « Fabre, voilà, un moment, puis tu iras là-bas au fond. » Il se pencha vers l'oreille du caporal, « Tu sortiras les morts, pas besoin qu'ils soient à l'abri. » « Va falloir de la place. Allez, toi, » il dit à Joseph. Il touchait ce gros pansement. Il ne reconnaissait plus son bras. Avait-on bien bouché au moins, bien bouché ce trou d'où il coulait dans l'air, lui, Joseph, il aurait voulu regarder et puis le boucher lui-même, ce trou pour savoir, pour être sûr. Il touchait son gros pansement. C'était là au fond, ça commençait à faire mal. Dans son échine serpentait la brûlure, puis la glace de la fièvre. Là-dedans, c'était une telle épaisseur d'odeur que ça remplissait la gorge comme de la boue. De temps en temps le caporal allait agiter la lampe à carbure. C'est dans ces moments-là qu'on voyait, là-bas au fond, ce qui ronronnait doucement, sans plus se soucier de la terre et de la vie. Le caporal berçait la lampe comme un petit enfant. Elle jetait des langues de flamme vers le fond. Ils étaient alignés là-bas. Celui du milieu était un grand à barbe châtain. Dessous il y avait ses joues creuses, ses yeux creux, son nez comme une lame de couteau. Son front portait la couronne d'un lourd bandage, si gonflé de sang qu'il suintait en filet le long du visage. « Tu vas finir, » disait le major. Le caporal posait sa lampe. Ça sentait élève, le sang et l'iode, des pansements sales fermentaient dans les coins. « Quelle heure ?» demanda le major. Il luttait avec un homme couché. Celui-là se défendait avec ses bras en criant.